C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Ian Fleming. Romancier 1908-1964. Britannique, hétérosexuel, rendu très riche par son personnage. Œuvre de Casino Royal 1953 à Meilleurs vœux de la Jamaïque 1966, 12 romans et 9 nouvelles. Personnage James Bond. Adaptation des suites de James Bond ont été écrites par divers écrivains, 26 films, le personnage ayant été successivement interprété par Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Une adaptation télévisée sans succès aux États-Unis en 1954. Il est à noter que James Bond est devenu célèbre en Amérique le jour où le président Kennedy a publié une liste de ses lectures et que le roman « Bon baiser de Russie » s'est trouvé mentionné à la 9e place, devant « Le rouge et le noir ». Il y a des personnages qui sont des pansements pour les nations. Il y a quelques semaines, j'ai parlé du personnage de Sissi, interprété par Romy Schneider. Cette poupée en sucre d'un film sorti en 1955 a servi à consoler l'Autriche nazie qui avait perdu la guerre 10 ans auparavant en inventant un empire austro-hongrois paradisiaque. D'une façon qui n'est peut-être pas très différente, James Bond est la création, 8 ans après la guerre que les Anglais étaient presque persuadés d'avoir gagné seuls, d'un héros anglais de l'espionnage qui sauve à chaque fois ce qu'on appelait « le monde libre ». C'est la contribution au délire de l'Angleterre seule qui a fini il y a 2 ans par l'amener au Brexit. Le personnage le plus proche de James Bond pour moi est le jeune chevalier devant un paysage, le tableau de Carpaccio, au musée Thyssen de Madrid, qui date de 1505. Comme lui, James Bond est virilement planté au centre de l'histoire. Comme lui, il a une cuirasse, son costume sur mesure. Comme lui, il est prêt à dégainer son arme. Comme lui, un combattant le frôle quelques pas en arrière, peut-être prêt à l'attaquer. Comme lui, au loin, on voit une forteresse, comme on voit dans les films de James Bond, la forteresse du MI6 au bord de la Tamise. Comme lui, à ses pieds, des animaux rôdent, comme James Bond aura à se battre contre des requins et des serpents. Je ne dirais pas que comme lui, James Bond est un modèle d'habillement. Beaucoup d'hommes ont appris le chic dans ses films, c'est du chic plouc. James Bond porte ostensiblement une Rolex, il séjourne dans des hôtels de Miami Beach où des filles plongent dans les piscines comme des voitures se garent, son costume est trop ajusté, dans Casino Royal, il porte même des chaussettes blanches. Si on veut savoir ce qu'il faut faire pour ne pas être élégant, il suffit de regarder un James Bond. Avec Daniel Craig, James Bond a changé. Une des scènes cruciales du film où il apparaît, Casino Royal, est un écho d'une scène où apparaissait Sean Connery dans le premier film Dr. No. Ursula Andress sortait voluptueusement de la mer. Dans Casino Royal, 44 ans après, c'est Daniel Craig qui sort voluptueusement de la mer. James Bond est-il devenu la James Bond girl? Qui est James Bond? Pour en parler, je reçois François Forestier, critique de cinéma à l'Obs et auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma, le plus récent étant Un si beau monstre sur Marlon Brando chez Albin Michel. François Forestier, à quoi ressemble James Bond dans les romans?
C'est un homme qui est très anglais, qui boit beaucoup, qui fume 66 cigarettes par jour, et qui a un visage osseux, c'est ainsi que le décrit l'auteur, avec une balafre sur la joue droite, je crois. Mm-hmm. Et il, rassurez-vous, il ne ressemble en rien à aucun des acteurs qui l'ont interprété au cinéma.
Non.
Non, du tout, du tout. Ian Fleming voulait au début un acteur qui ressemble à, c'était son idéal, Augie Carmichael. Augie Carmichael, c'est le pianiste dans Le Port de l'Angoisse. Donc c'est un type qui a un tout petit rôle, c'était un grand jazzman. Mmh.
Et qui ressemble à quoi?
Qui ressemble à un visage osseux, justement.
Ah ouais.
Enfin, il a pas de balafre, hein, mais qui a un côté un petit peu amusant, un peu cynique, et qui était un personnage absolument touchant. Ce qu'il y a, c'est que physiquement, il était assez petit, il était fluet. Et donc, évidemment, il n'était pas conçu pour ce rôle. En plus, il était trop vieux. En revanche, plus tard, quand les producteurs ont commencé à chercher des acteurs qui pouvaient incarner James Bond, ils ont pensé, sur la suggestion de Ian Fleming, à Cary Grant et David Niven. Pourquoi ? Parce que ce sont deux acteurs qui sont d'origine anglaise. Vous savez, Cary Grant s'appelait de son vrai nom Archibald Arthur Leach, et David Niven. Et tous les deux avaient cette espèce de suavité, cette élégance, sauf que aucun des deux n'a de vibration sexuelle. Alors que, évidemment, Sean Connery, quand il est arrivé, c'est ce qu'il a ajouté immédiatement.
Oui, ça, évidemment. J'ai lu d'ailleurs que dans les premiers James Bond, Ian Fleming donne sa taille et c'est 1m84. Et 1m84, en 1953, c'était beaucoup plus grand que maintenant. Enfin, oui. Beaucoup.
Bon, c'est-à-dire que Ian Fleming s'est inspiré de lui-même, puisqu'il avait été espion pendant la guerre. C'était un homme assez grand, qui fumait beaucoup. D'ailleurs, il en est mort très rapidement, et qui buvait beaucoup, et qui avait une réputation de séducteur bien établie. Donc, il n'a pas été chercher très loin. Il s'est regardé dans un miroir et il a dit « c'est moi, mais en plus beau ». Ce qui, après tout, est le privilège de l'auteur.
Alors, dans Moonraker, le roman, je parle toujours des romans, là, il est dit de James Bond qu'il a une bouche cruelle. C'est une chose qui a un peu disparu, ça, j'ai l'impression, dans les films, cet élément de cruauté qui est plus frappant, il me semble, dans les romans que dans les films, non? Ou je me trompe?
Pour l'époque, c'était assez extraordinaire. Mais souvenez-vous qu'en 1962, quand James Bond contre Dr. No est sorti, on a tous été, moi je me souviens très bien, j'ai été à la première séance, c'est Lawrence d'Arabie qui devait sortir et qui a été reculé, à la place on a mis un petit film que personne connaissait, qui était James Bond, et il y avait une cruauté dans le film et une violence qui nous paraît absolument désuète aujourd'hui, mais c'était très frappant, parce que les espions à l'époque, n'oubliez pas, c'était Lemmy Cochon. Donc, Lemmy Cochon, c'est un type qui buvait du whisky et qui tapait sur la gueule des gens. Point barre.
C'était Eddie Constantine.
C'était Eddie Constantine, absolument. Donc, et tout d'un coup, on avait James Bond, qui était un homme sophistiqué, qui parlait bien, qui avait un bel accent, qui savait faire du karaté, qui savait faire des cocktails, qui faisait rouler ses cigarettes exprès sur mesure dans une usine, je ne sais où, en Turquie, avec du tabac turc. Enfin, c'était, et qui roulait en Rolls, qui avait des costards taillés sur mesure, etc. Donc, c'était vraiment un choc de voir ça. Et la violence des bagarres et du sang qu'il y avait, qui aujourd'hui sont quasiment rien, était tout à fait en rupture avec ce qui se faisait à l'époque.
C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que quand le film est sorti, on ne s'attendait pas à ce que ça soit un énorme succès. Et ça veut dire d'autre part que les romans en France n'étaient pas tellement lus?
Absolument. C'était le film est sorti en catimini. Il a rempli donc un trou de programmation pendant une semaine, pas plus. Et personne ne s'attendait à ce que ça fasse un triomphe. C'était Cubby Broccoli et Harry Saltzman qui étaient les producteurs. Broccoli avait été l'homme de paille de Howard Hughes et c'était, disons-le franchement, c'était un homme dont la mission principale était de procurer des adresses et des téléphones de jeunes femmes à Howard Hughes. Et qui avait, dit-on, des accointances avec des personnages un peu mafieux à Hollywood. Bref, le film est sorti. Cubby Broccoli avait déjà produit 2-3 films qui n'avaient pas eu un très grand succès. Et tout d'un coup, ce film-là qui avait été fait avec très peu de moyens. Quand on revoit Dr. No, on est frappé aujourd'hui de voir à quel point c'est pauvre, les décors sont pauvres, les costards sont pauvres. Mais il y a eu une magie qui s'est opérée, et la magie, elle s'est opérée surtout sur Sean Connery. Et ça, c'est là vraiment le
là coup où... De génie.
Pardon ?
C'est le coup de génie de la programmation de...
Non, c'est le coup de génie de Terence Young, le metteur en scène. Le metteur en scène qui a pris un acteur qui s'appelait Sean Connery. Alors, n'oubliez pas, Sean Connery, c'était un Écossais, un ouvrier avec un accent des bas-fonds à couper au couteau, qui n'avait aucune manière, qui était vraiment un type mal dégrossi.
Pardon de vous interrompre, il était connu à l'époque quand il a été distribué dans le rôle ?
Pas du tout, il avait joué de 3 petits rôles à droite à gauche. Et on l'a choisi pour sa prestance physique. Il avait fait du bodybuilding, hein. Terence Young, le metteur en scène, a entrepris de dégrossir ce personnage. C'est lui qui lui a donné les costumes, c'est lui qui lui a appris à parler. Il en a fait un être ultra sophistiqué, alors que croyez-moi, Sean Connery, c'était absolument pas ça, hein.
Alors, après ça, il y a eu... D'abord, d'où vient le nom? Est-ce qu'on sait d'où, comment Ian Fleming a choisi le nom de James
Oui,
Bond?
On sait, bien sûr. James, parce que je crois que c'était l'un de ses prénoms. Enfin, je me souviens plus très bien sur le prénom, mais le nom, c'était le nom d'un ornithologue connu. Et il se trouve qu'il cherchait un nom un peu banal. Il voulait pas un nom très compliqué, avec des traits d'union, enfin comme on faisait à l'époque. Et donc il a regardé autour de lui, et il a vu le traité d'ornithologie de
Monsieur Bond.
De Monsieur Bond, et il s'est dit, c'est un nom pas mal.
Alors, après Sean Connery, il y a eu d'autres incarnations et qui étaient plus ou moins intéressantes. Une qui est assez amusante, je trouve, c'est Roger Moore, qui a l'air presque d'une parodie de James Bond plutôt que d'y croire, ou non ?
Si, absolument. Non, pour tout le monde et jusqu'à la fin des temps, c'est évidemment Sean Connery qui est le James Bond.
Halte là, allons parler de Daniel Craig dans la deuxième partie.
Non, ben on va en parler, mais c'est quand même Sean Connery. Bref, il y a eu ensuite évidemment Roger Moore, et Roger Moore a ajouté une note de je m'en foutisme. C'est-à-dire que moi, j'ai visité les décors avec le James Bond fan club de certains tournages. Et quand on demandait, la plaisanterie était que quand on demandait à Roger Moore de ramasser un stylo ou quelque chose qui était tombé, il lui fallait un cascadeur. et quand on lui demandait de courir de l'entrée du château jusqu'à la salle à manger, tout le monde était mort de rire parce que courir Roger Moore, il savait pas. Donc, en revanche, ce qu'il savait faire, c'était l'ironie, et ça, c'est très bien.
Et après, il y a eu, alors pour moi, le Guy Lux des acteurs, l'homme qui sait faire une chose, c'est lever un sourcil avec un rictus, c'est Pierce Brosnan.
Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je l'aime bien, Pierce Brosnan. Il a, c'est vrai qu'il a pas une empreinte très forte, mais il est charmant. Et n'oubliez pas qu'il y en a eu un avant, quand même. Il y a eu Barry Nelson en 1954.
C'est vrai que je l'ai pas mentionné.
Voilà, en 1954, lui avait vraiment, passez-moi l'expression, une tête de con. Et vraiment, heureusement qu'il a pas continué.
Tête de con de quel genre?
Chanteur de variété des années 50, c'est-à-dire, vous savez, le cheveu court, très gominé, mais c'était pas un mauvais acteur d'ailleurs, c'est pas la question. Mais enfin, très marqué par l'époque, et c'est lui qui joue d'ailleurs dans le directeur de l'hôtel dans Shining, le film de Kubrick. Ah. Voilà.
Et on a eu aussi Lazenby et Timothy Dalton qui ont un petit air droupi avec les joues plates comme ça, qui sont pas, non ?
Alors Lazenby, c'était un Australien qui était alors lui très costaud, genre 1m90. Le problème, c'est qu'il s'est vraiment cru qu'il était James Bond. Ah, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire des caprices, enfin il emmerdait tout le monde, et les producteurs se sont dit c'est pas possible. Et c'est vrai que ça marchait, quoi. Le type arrivait pour la promotion du film n'importe où, il y avait 30 filles qui se jetaient sur lui, il était ravi. Plus tard, on m'a dit qu'il était devenu vendeur de voitures d'occasion. Quand on lit ses interviews tardives, il dit qu'il a vraiment raté le coche, et on ne peut pas lui donner tort.
Alors, les premiers James Bond, ce sont des films de la guerre froide assez simples. Il y a un ennemi, c'est l'URSS. Et d'ailleurs, c'est un Anglais, Churchill, qui a inventé l'expression « rideau de fer ». Et c'est donc un agent anglais qui va nous protéger. Ça a évolué au fur et à mesure des années, ce monde géopolitique assez simple, non ?
Oui et non. C'est-à-dire que quand je vous parlais de la version de 1954, Casino Royale, donc cette version de 1954 télévisée, il y avait déjà un méchant, mais qui n'était pas communiste, qui s'appelait Le Chiffre, qui est vraiment une espèce de docteur Mabuse, et qui était joué à l'époque par Peter Lorre.
Le génial Peter Lorre,
qui était, comme vous le savez, qui a joué M le Maudit dans le film de Fritz Lang. Bref, c'était un choix tout à fait intéressant. Et peu à peu, évidemment, il y a eu la guerre froide, donc c'était dans l'air du temps. Au fil des ans, le méchant, une fois que le mur de Berlin s'est écroulé, on a eu beaucoup de mal à incarner on ne savait plus très bien quoi faire de ce méchant. Donc on a plutôt voulu transformer ce méchant, en espèce de cerveau qui veut absolument foutre en l'air toute la planète. Et avec Daniel Craig, ça a un petit peu changé, car les méchants sont devenus plus acérés quand même.
Oui, et d'ailleurs je me demande si d'une certaine façon, dans les récents avec Daniel Craig, en exagérant un peu, James Bond n'est pas devenu un peu de gauche. Parce que quand je pense à Quantum of Solace, où Matthew Amalric joue le rôle d'un milliardaire philanthrope qui veut voler de l'eau dans un pays pauvre, j'exagère un peu, mais enfin c'est une chose qui n'est pas très Ian Fleming, non ?
Oui, absolument. Ian Fleming n'était pas un homme de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais oui, enfin, vous savez, James Bond, les films en tout cas, ont toujours été dans l'air du temps. Donc on capte, c'est les producteurs surtout, qui donnent les instructions aux scénaristes et qui disent, tiens, il y a tel thème qui serait intéressant, telle chose qui serait pas mal. Donc il y a eu les Chinois, il y a eu les Russes, il y a eu les talibans, il y a eu tout le monde. Donc c'est, faut dire que les trouver un méchant, c'est jamais très compliqué. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a une chose évidemment très importante, quelle que soit l'incarnation de James Bond, c'est ses rapports aux femmes. Comme on sait, dans un des films, dans Au service secret de Sa Majesté, sa femme est tuée le jour de son mariage, de leur mariage. Mmh. Et on dirait qu'il est impossible que James Bond soit marié. Ça doit être un héros célibataire. D'ailleurs, tout autour de lui, je crois, sauf erreur, tous les personnages sont célibataires. Et tout ça consomme de la femme comme du bétail.
Oh, comme du bétail, il ne faut pas exagérer quand même. Dès le départ, en effet, James Bond est un séducteur. Mais n'oubliez pas que les agents secrets ont toujours été décrits depuis la nuit des temps dans les romans, que ça soit Lemmy Cochrane dont on parlait, ou que ça soit OSS 117, comme des grands séducteurs. Hein. Mais on sait que Ian Fleming lui-même était un très grand consommateur de femmes, et son frère Peter Fleming, qui était un auteur voyageur très connu, était lui-même aussi. Donc c'était des gens qui étaient tout à fait habitués à séduire les femmes, et c'était un élément essentiel, évidemment, qui a plu à toute une génération de lecteurs, dont le président Kennedy, qui lui-même, etc., etc.
Oui, en effet. Pour revenir à l'appui de ce que vous disiez précédemment sur l'air du temps capté par James Bond, il est un fait que, je crois que c'est à partir de GoldenEye, il a une femme pour patronne, puisque M, à partir de ce moment-là, est une femme.
C'est vrai. Donc ça, c'est un changement intéressant. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit révolutionnaire non plus. Là où ça devient très, très intéressant, je vous apporte peut-être une information, c'est qu'on, pour les prochains James Bond, puisque la série ne va pas s'arrêter là, on a considéré qu'il n'était pas impossible que James Bond soit incarné par un acteur noir, notamment Idris Elba, et on a aussi considéré qu'il n'était pas impossible de prendre une femme pour jouer Jane Bond.
Ça fait pas un peu partie de l'intox assez habituel des productions de James Bond, ça, entre chaque film, on nous annonce.
Oui, incontestablement. Ceci dit, il y a quand même des moments où on a vu des choses assez étonnantes. Dans l'un des récents James Bond, je sais plus lequel, il y a quand même James Bond qui dit qu'il a essayé l'homosexualité, hein, ce qui était invraisemblable. Imaginez-vous, dans les années 60, s'il avait dit un truc pareil, le méchant lui dit, les hommes, vous savez pas, enfin, je me souviens plus du dialogue, mais vous savez pas ce que c'est, il dit, qu'est-ce que vous en savez, il lui laisse entendre que, ma foi.
C'est dans Spectre et c'est Javier Bardem.
Voilà, exactement.
Nous allons maintenant entendre un extrait de la musique originale de James Bond, le film. Elle a été composée, comme tout le monde sait, par John Barry. François Foresti, dans la deuxième partie de ce personnage en personne sur James Bond, je voudrais qu'on se concentre sur Daniel Craig, puisqu'aussi bien c'est le plus récent. Donc il apparaît dans 4 films, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre. Et une chose, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui me frappe assez, c'est que jusqu'à lui, j'ai l'impression que James Bond était un personnage entièrement extérieur, c'était évidemment de l'action, et n'importait que les missions et ce qui s'y passait, et on ne savait pas trop comment il vivait ni où il vivait. Et pour la première fois, depuis Daniel Craig, on aperçoit son appartement. Et symboliquement, on entre dans son appartement. Et symboliquement, j'ai l'impression que là, on entre dans l'intime et qu'on a essayé de créer de quelque chose de plus intime avec Craig.
Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, au bout de je ne sais combien de films, il faut donner un petit peu de profondeur au personnage et c'est mieux. Et c'est vrai que Craig c'est un très bon acteur. Et pour le rôle, il a énormément gonflé, il a pris de la musculature, enfin, et il est exactement l'antithèse de ce que voulait Ian Fleming. C'est-à-dire, Ian Fleming voulait un homme sophistiqué. On a parlé de Cary Grant ou de David Niven. Il voulait un homme grand avec une balafre, etc. C'est pas du tout le cas.
Et brun.
Voilà. Et Daniel Craig, c'est exactement le contraire. Il est assez court sur pattes. Donc, il a fallu absolument meubler. Et ça a marché très bien. Hein. Ça a marché très bien. Les films avec Daniel Craig ont eu énormément de succès, à tel point qu'il a vieilli avec le rôle. Et on se demande maintenant si il est pas un peu trop vieux. Enfin, la question s'est posée pour le prochain James Bond. S'il resterait, et tout. Sans compter quand même que son cachet a considérablement augmenté, ce qui est normal.
J'imagine. Cela dit, Roger Moore, je crois, avait joué son dernier James Bond à 58 ans. Donc, est-ce que Daniel Craig à cet âge-là, pas encore?
Oui, mais à l'époque, on pouvait se permettre des choses qui étaient tout à fait possibles. Aujourd'hui, un type de 58 ans qui fait des pirouettes et qui donne des coups de pied en l'air, qui saute et qui flingue tout le monde, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, on sait. La presse s'en est fait l'écho, qu'on était à la recherche d'un acteur qui serait un peu plus jeune, qui incarnerait à la fois l'ironie, la suavité, mais aussi le côté musculeux du personnage.
Donc, alors, il y a une chose qui a changé avec les Daniel Craig aussi, me semble-t-il, c'est que ce sont des James Bond qui sont devenus moins gadgets. Et d'ailleurs, on s'en moque un peu dans les films. Dans un des derniers, dans Skyfall, il prend une Aston Martin à la fin avec un clin d'œil appuyé.
Oui, c'est-à-dire que, non, pour la première fois, il y a eu un vrai metteur en scène. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine période, les metteurs en scène des films de James Bond étaient des artisans, pas des artistes. C'est-à-dire c'était des gens qui savaient très bien mettre en scène, comme Terence Young, etc., mais qui n'avaient pas une vision globale du cinéma et qui n'imprimaient pas le septième art, qui, en dehors de James Bond, d'ailleurs, ont une existence assez falote. En revanche, quand Sam Mendes est arrivé, Sam Mendes, c'est un metteur en scène extrêmement intéressant. Et je crois que par contrat et par volonté, il a voulu imprimer, avoir sa marque. Et c'était la première fois qu'on avait vraiment un artiste. Sam Mendes, c'est un homme qui a fait de la mise en scène d'opéra, qui a fait de la mise en scène de Shakespeare, et je l'ai rencontré, hein, c'est un homme qui a des idées extrêmement arrêtées sur ce qu'est l'art et sur ce que doit être le cinéma et de façon générale, l'image. Et c'est un homme qui a un passé artistique extrêmement fort. Et d'ailleurs, quand il a senti que les producteur voulait revenir à une conception plus traditionnelle de James Bond, je crois qu'il y a eu des clashs très forts. Et c'est lui qui a gagné. Et ce qui fait que les derniers films de James Bond, notamment ceux avec Daniel Craig, sont, je pense, beaucoup plus intéressants que ceux qui ont été faits dans les années 70 ou 80.
Oui, il y a des scènes très esthétiques. Vous parliez de la scène avec Javier Bardem qui est sur une île avec des bâtiments délabrés qui est très...
Voilà, c'est magnifique. Quand on regarde ça, il y a vraiment une vision esthétique qui est autre chose. Les producteurs, jusqu'alors, craignaient beaucoup l'introduction d'un artiste qui aurait déformé leur potentiel commercial.
Alors, pour en revenir à Daniel Craig, il y a une chose intéressante aussi que Mendes, dont vous parliez, qui semble fouiller dans ses films, c'est une espèce de blessure dans le personnage de James Bond. Et on revient, par exemple, dans Skyfall, il est dit de lui, rejet pathologique de l'autorité dû à un traumatisme d'enfance irrésolu. Et ça, c'était une chose où, qu'avant, dans les James Bond, le traumatisme d'enfance, il n'était pas question d'en parler.
Non, cette notion psychanalytique n'existait pas. Mais en revanche, le rejet de l'autorité existait. Hein. Ça, on sent que c'est... Dès les premiers romans et dès les premiers films, on sait que c'est un type qui a du mal avec l'autorité, qui fait un peu ce qu'il veut, qu'il a envie plus de s'amuser et qu'il faut pas trop lui marcher sur les pieds, ce qui était quand même l'essence du personnage. Évidemment, le côté psychanalytique est venu avec Sam Mendes. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas, et je ne sais pas si ça donne vraiment de la profondeur au personnage, parce que ce qu'on a envie, c'est qu'il casse la gueule aux méchants et puis point barre.
Il ajoute quand même des éléments comme ça, parce que dans le personnage de M, qui est donc merveilleusement joué par Judi Dench, dans Quantum of Solace, un des derniers, donc avec Daniel Craig, on fait dire à M, donc elle soutient James Bond contre l'avis de la CIA, et là cette réplique sublime, je me fiche de la CIA, c'est mon agent, et James Bond dit, elle a un complexe de la mère. Et tout d'un coup, il y a des subtilités qui apparaissent dans ces Craig-là, si je puis dire, qui n'était pas avant.
On a profité de la présence de Judi Dench, parce que vraiment, c'est une actrice exceptionnelle qui a une carrière incroyable et qui a un passé assez génial. Et je pense qu'on a immédiatement tilté sur, enfin les scénaristes et le metteur en scène ont tout de suite fait tilt sur la dimension psychanalytique. Encore une fois, je suis un peu perplexe devant l'idée qu'on puisse psychanalyser James Bond, qui est un personnage qui change tout le temps quand même, depuis le début des films, depuis les premiers films jusqu'à maintenant, et depuis les premiers romans. On voit bien que c'est pas du tout le même personnage qui est...
Vous trouvez?
Ah, mais oui.
Il change en quoi?
Ah, il change déjà physiquement, oui, hein. Il change dans son humour. C'est pas un type très drôle, hein. C'est quelqu'un qui est assez déterminé et un peu je m'en foutiste parce que il défie l'autorité, mais c'est pas du tout un personnage qui passe son temps à faire des répliques marrantes, ce qu'il est devenu ensuite avec Roger Moore, etc. Donc, le personnage change beaucoup, je trouve. Il a évolué avec son temps. Il est devenu beaucoup plus physique. Maintenant,
Sean Connery
est à part, mais il est devenu beaucoup redevenu parce que Timothy Dalton et Pierce Brosnan, bon, ils sont sympas, mais on peut pas dire que ce soit des athlètes. Et on revient un petit peu à cette conception. Et le prochain James, moi j'ai un acteur que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup voir dans James Bond, c'est Henry Cavill. Henry Cavill. Je sais pas si vous voyez, c'était l'acteur qui jouait dans Des Agents Très Spéciaux. Et qui jouait dans Batman versus Superman.
Et qui jouait, pardon de l'interrompre, dans une espèce de pastiche de James Bond, qui est la série des Missions Impossibles.
Absolument, qui jouait dans le dernier Mission Fallout. Mais c'est, je trouve que ça serait un bon James Bond. Et on est évidemment très très loin de ce qu'on connaissait dans les années 60.
En effet. Alors, vous parliez tout à l'heure de la scène ambiguë avec Javier Bardem. Moi, je trouve que cette scène où... James Bond ou Daniel Craig sort de l'eau avec son petit maillot de bain mouillé, je me demande si tout ça n'est pas fait, si au fond, dans les James Bond et par le personnage des James Bond, l'homosexualité refoulée des machos ne s'assouvit pas.
Enfin, écoutez, je pense que vous allez un tout petit peu loin. Voir James Bond avec du rouge à lèvres et transformé en drag queen, faut vraiment pousser un tout petit peu loin. Je ne crois pas que James Bond soit... malgré les suggestions qui ont été faites dans certains films, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer en homosexuel. Mais enfin, mon Dieu, pourquoi pas?
Le triomphe pour un personnage, c'est quand tout d'un coup, on le colle à côté d'une personne de la vie matérielle, si je puis dire. À l'ouverture des Jeux Olympiques de 2012, la reine d'Angleterre est apparu à Buckingham, vous devez vous en rappeler, à côté de Daniel Craig en James Bond. Évidemment, on peut aussi dire que c'est le révélateur de l'histrionisme des chefs d'État qui sont prêts à tout pour entretenir leur popularité.
Bah, vous savez, la reine d'Angleterre récemment est apparue aux côtés de Donald Trump, donc je pense qu'on peut tout imaginer là.
François Forestier, que vous a appris le personnage de James Bond ?
Il m'a appris que c'est curieux parce que moi j'avais, je sais pas, 16 ans quand j'ai vu Dr. No. Par surprise, je suis rentré dans la salle, je me suis assis et le film m'a tellement plu à l'époque, j'ai trouvé ça tellement formidable. Je suis resté à deux séances à l'époque, on pouvait rester à deux séances, maintenant on ne peut plus. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'on pouvait faire des films d'action avec de l'humour et que finalement on pouvait ajouter beaucoup de sophistication. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, le magazine, lui, avait classé James Bond comme l'un des personnages les plus sophistiqués du monde, sous la rubrique les trois S, je crois. Il y avait le snobisme, la sagacité et je sais plus quoi, la cruauté. Enfin, ça commence pas par un S, mais enfin bon, c'est en anglais peut-être. On avait lancé des boutons de manchette James Bond, des chemises James Bond, des chaussures James Bond, des meubles James Bond, des alcools James Bond. Bref, c'est un personnage qui est devenu mythologique. Ce qu'il m'a appris, c'est que le cinéma, ça pouvait être du fun et énormément de fun.
C'était Personnage en personne, le 64e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Robert de Saint-Loup, créé par Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Chouchane Djergaillan, prise de son Jean-Michel Bernot.
Ma vie.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours paradis.